Bonsoir Anne Fauquemberg, merci beaucoup à vous. Nous sommes ce soir à la Maison de la Radio, de retour de Boulogne-sur-Mer. Sur la route, Julie Gacon, avec Yvon Croisier et Sophie Bobert. Tiens, regarde celui-là, Yvon. Le génie a enfin exaucé leurs vœux. Tels Scheherazade et Aladdin, Sylvie et Mathieu vont se marier. La célébration aura lieu le 25 octobre 2016. Notre génie s'est envolé, c'est grâce à vous que nous réaliserons nos 1001 souhaits. Tiens, Coralie et Alexandre. Après avoir épuisé toutes les marguerites avec des jeux de thèmes un peu beaucoup passionnément à la folie, Coralie et Alexandre ont décidé d'utiliser le dernier pétale pour se dire oui pour la vie. Les éditions La Belle Vie ont la joie de vous annoncer la sortie de l'œuvre qui marquera ce siècle par la force de son engagement. Mariage d'amour par Barbara et Julien. Leur talentueux auteur vous convie pour en ouvrir les premières pages le samedi 9 juillet 2016 à 16h en l'église de Cambrai.
Madame, c'est vous qui faites ces faire-part ? C'est vous qui proposez les textes aux futurs mariés ou ce sont eux qui vous donnent des suggestions ?
En général, ils arrivent avec leurs textes. Éventuellement, je corrige si le français n'est pas toujours bon, etc. Mais ils amènent leurs textes, ils amènent leurs idées, leurs couleurs pour faire quelque chose de personnel.
Et alors, question, est-ce qu'ils sont garantis ?
Oui, c'est garanti pour la vie. Quand on vient ici, c'est pour la vie.
On pensait le mariage désuet. On trouvait à la robe blanche une légère odeur de naphtaline et à la pièce montée un goût de vieux carton. Les nœuds papillons battaient de l'aile. Le rituel paraissait aussi factice que les sourires des invités. Invités qui pensent, sans oser le dire, ils riront moins dans 15 ans. Pourtant, la cérémonie fait toujours rêver des jeunes moins inconstants en amour qu'on a bien voulu le croire. Les mairies n'en finissent pas de voir des époux défiler, hétéros ou homos, de tous les âges et de tous les milieux, et leurs parents 68ards de se demander s'ils sont devenus des contre-modèles. Du mariage, de son sens et de sa forme, sa mise en scène, on en parle avec vous, Florence Maillochon, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes chargée de recherche au CNRS et chercheuse associée à l'Institut National des Études Démographiques, à l'INED. Vous publiez en avril « L'amour du mariage » au PUF. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions de mariage. Alors pour ce livre, j'imagine que vous avez écumé les salles des fêtes et les châteaux. Vous avez comparé les petits fours, les champagnes, les mousseux et les pièces montées, bien sûr.
En effet, j'ai fait beaucoup de terrain pour ce travail. J'ai commencé à chercher des personnes dans les salons de mariage à Paris et puis aussi en province. J'ai aussi écumé beaucoup Internet parce que désormais, pour préparer son mariage, on passe beaucoup de temps sur le web. Donc c'est aussi un lieu où on rencontre des futurs mariés qui sont très contents en général de raconter comment ils vont faire leur mariage.
Donc vous n'avez pas eu de difficulté à les faire parler ?
Non, pas vraiment. À vrai dire, c'est quand même un moment heureux. Donc c'est un sujet sur lequel on peut s'épandre assez largement.
Bon, vous êtes allé dans les salons du mariage, nous dites-vous, nous aussi pour cette émission. Les salons du mariage, vous en avez fait beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup en France. On a l'impression que chaque ville a son salon du mariage aujourd'hui.
Il y en a beaucoup, il y en a surtout de plus en plus. C'est un phénomène assez récent qui a commencé à la fin des années 90 et qui, depuis, n'a de cesse de progresser. Alors évidemment, il y a quelques salons phares comme le salon du Carrousel du Louvre ou le salon Porte de Champéry à Paris. Et puis en province, évidemment, il y a aussi beaucoup d'événements de ce type qui rassemblent les commerçants locaux et qui font aussi une petite sorte de fête locale où les gens se plaisent à venir aussi, même s'ils ne souhaitent pas se marier dans l'immédiat.
C'est un premier indice alors de la bonne santé du mariage. S'il existe des salons du mariage et s'il y en a tant, c'est parce que le mariage est un marché à prendre.
Alors, est-ce que c'est un bon indice de la bonne santé du mariage ? Je dirais plutôt que, comme vous venez de le dire, c'est un bon indice du marché du mariage.
Mais oui, on parle de 5 milliards d'euros par an. C'est énorme.
C'est énorme, alors que le nombre de mariages ne cesse de diminuer. Donc là, ce qu'on voit bien à travers ces quelques chiffres, c'est que même si le nombre de mariages diminue, en fait, on fait des mariages de plus en plus somptueux et le commerce n'en est plus, que plus content.
On célèbre combien de mariages aujourd'hui en France à peu près ?
Alors en 2015, on en a célébré 240 000. Et il faut savoir que dans les années 70, on en a célébré 400 000. Et depuis les années 70, ce nombre de mariages n'a cessé de diminuer.
Bon, presque moitié moins aujourd'hui. Oui. La fin janvier, début février sont propices au salon du mariage. Saint-Valentin oblige. Alors nous sommes allés dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer, où aucun rapport, c'est le club de basket qui est chargé d'organiser le salon du mariage.
Mesdames et messieurs, c'est maintenant ou jamais pour se rapprocher de la scène. Début du défilé dans 2 minutes. Dans 2 minutes, nous commençons le défilé.
Alors Jérôme Fouble, c'est vous l'organisateur de ce salon du mariage à Boulogne-sur-Mer, qui est organisé donc dans ce grand espace de Boulogne-sur-Mer qui s'appelle l'espace de la faïencerie. Combien vous avez d'exposants ?
Alors cette année, on est sur un salon qui regroupe 25 exposants. Avec un ensemble de métiers assez variés, puisqu'on va aller de l'animation à la réception, en passant par les robes de mariée, les bijoutiers, les traiteurs, les cavistes. J'en oublie certainement, puisqu'on a aussi une agence immobilière, puisque derrière le mariage, il y a d'autres choses qui s'enchaînent, donc c'est assez varié. On aimerait bien encore l'étendre, parce que les gens ont toujours besoin de comparer, de mettre en concurrence, et puis d'avoir des idées, puisque le mariage, c'est un moment de plus en plus... J'irai encoder avec toute une chose. C'est plus le simple repas de mariage qu'on fait, c'est vraiment quelque chose d'assez varié, avec une déco, un thème, toutes des choses très précises. Donc on a de plus en plus d'exposants, même de métiers qui se créent dans le mariage.
Il y a des tendances dans le mariage chaque année ? Il y a une saison, une mode particulière ?
Alors là, il y a des tendances particulières sur les couleurs, sur les thèmes. Après, c'est des effets de mode. On a les thèmes du cinéma, le thème de la mode qui reviennent un petit peu là depuis 2-3 ans. Maintenant, c'est assez varié. C'est vraiment chacun à l'image de sa journée en tête et le crée vraiment en fonction de ses attentes et de ses envies.
Ça veut dire quoi le thème du cinéma pour un mariage ?
Oh bah c'est assez varié. Ça va passer, ça va commencer par le faire-part où on va faire une petite carte d'invitation qui peut être un ticket de cinéma ou qui peut être un scénario de film, jusqu'au repas où les gens vont manger sur une pellicule de film, vont vivre le film à la télé, la scène qui va être faite tout autour de ça, la décoration de la salle. C'est vraiment de A à Z. Il y a beaucoup de gens qui construisent leur match de A à Z autour d'un thème et c'est assez original.
Vous recevez combien de personnes là sur un week-end ? Combien de couples ou de jeunes filles qui viennent avec leur mère ?
Alors sur le... Nous, on comptabilise sur tous les couples. Donc là, on est entre 350 et 400 couples à l'heure actuelle sur ce week-end. Et en nombre de personnes, ça va faire 800-900 personnes... Peut-être 1000 si on fait une belle année, mais c'est ça. Maintenant, on cible vraiment la communication sur le couple. Je dirais qu'on ne recherche pas vraiment la visite en général. On recherche vraiment des gens qui viennent pour le mariage. C'est ce que les exposants veulent.
Oui, pour ces commerçants, un jeune couple qui se marie, ça représente une part importante pour eux de leur chiffre d'affaires ?
Ça va dépendre des métiers. Il y a des gens qui sont totalement spécialistes mariage. Aujourd'hui, sur le salon, on a des gens qui sont des organisateurs de mariage. Eux, c'est quasi 100% de leur chiffre d'affaires. Et puis il y a les bijoutiers qui ont des périodes fortes. Là, ils rentrent dans le mariage avant le printemps, avant l'été. Donc c'est leur période forte sur le mariage, mais ils vivent aussi beaucoup d'autres choses. Les traiteurs, c'est un peu le même principe. On a Audi cette année qui est présent, qui fait de la location, qui a créé une offre pour le mariage, de la location week-end de très belles voitures. C'est une offre qu'ils ont créée, c'est tout à fait récent, Audi Rent. Et c'est vraiment original. Ils ont un succès fou, alors que c'est quelque chose qui n'existait pas il y a un an, quoi.
Parfois, on se dit que le mariage, c'est une institution qui est devenue désuète. Mais on voit ici... Combien les jeunes y sont encore attachés ?
C'est marrant, on a Frédéric Cuvillier qui est député maire de Boulogne qui est passé ce matin prendre le pot avec les exposants en fin de matinée. On en parlait justement. Et depuis 4 ans, le nombre de mariages à Boulogne remonte. On est sur un schéma d'augmentation des mariages.
Allez mesdames et messieurs, début du défilé dans maintenant 30 secondes.
Vous vous appelez Rémi, c'est ça ?
C'est bien ça, bonjour.
Et vous alors, est-ce que vous avez trouvé l'heureux élu ?
Alors oui, j'ai trouvé une heureuse élue, par chance, dont nous devons faire cet événement, donc le mariage d'ici 2 ans. La date n'est pas encore fixée exactement, mais ce sera bien pour 2018.
Vous l'avez rencontré quand ?
Alors ça a été une rencontre qui a été faite il y a un an déjà, sur Boulogne-sur-Mer, car j'habite Boulogne également. Je suis jeune, j'ai 23 ans, donc on sort pas mal, au niveau des boîtes de nuit. Comme on est jeune, on s'est rencontrés là-bas et comme c'est quelqu'un de sérieux, on a décidé de continuer l'aventure. Voilà.
Et alors pourquoi le mariage? Pourquoi vous avez décidé de vous marier?
Bah écoutez, moi j'ai vraiment parlé avec ma compagne de ce projet-là, car pour moi c'est quelque chose d'important. Après, il faut qu'il y ait forcément un rapport fusionnel entre nous deux.
Ça veut dire quoi, être fusionnel?
Bah, on est fort attachés, je veux dire, on s'aime, hein, c'est la vie de tous les jours, on s'entend bien et on a décidé de s'unir.
Et pourquoi pas s'unir par le Pax, par exemple, ou pourquoi le mariage?
Bah écoutez, c'est vrai que là, vous me posez une drôle de question parce que je me suis pas renseigné au niveau du Pax. Les mariages, hein, c'est dans ma famille, beaucoup de personnes s'est mariées, ma grande sœur également, mes parents forcément. Donc voilà, le mariage, pourquoi le mariage? C'est vrai que c'est une bonne question et je peux pas trop vous répondre à ce sujet-là.
Elle s'appelle comment?
Elle s'appelle Mélanie.
Et est-ce que vous lui avez fait votre déclaration à Mélanie, votre demande en mariage?
Donc oui, la déclaration a été faite. J'ai sorti le grand jeu, entre parenthèses. Hein. Moi, c'est vrai que je suis fort sentimental. Et quand j'aime quelqu'un, je le fais, je le montre jusqu'au bout. Donc voilà. J'ai invité ma compagne à aller au restaurant, sans qu'elle le sache. On a eu des complices avec des amis. Et forcément, bah, la bague était dans le bouquet de fleurs. Quoi, et elle a été très, très heureuse.
Comment vous imaginez la cérémonie?
Ah ben, c'est vrai que la cérémonie, c'est un jour très important. Pour nous, c'est le plus beau jour de notre vie, hein, généralement. Donc, j'imagine avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur.
Ce serait quoi votre budget pour votre mariage?
Alors, nous, si on a bien calculé, on a un budget pour 5 500 euros.
5 500 euros, ouais. Vous avez fait les comptes?
On a fait les comptes, on a le traiteur, la sonorisation, etc. Et on a essayé de trouver quelque chose qui rentrait dans notre budget. Après, bon, c'est pas un gros mariage, hein. Il y a une centaine d'invités. Et je pense que le budget sera correct.
Et bah, bonne organisation de mariage. Vous avez du temps devant vous quand même, hein. 2 ans, ça va?
Oui, c'est vrai. Il y a encore 2 ans de préparation, mais comme on dit, la préparation est longue. Et le jour J passe très vite. Voilà. Au revoir, merci à vous.
Fais son entrée sur scène, Arthur. Arthur qui se voit rejoint sur scène par Julia. Arthur et Julia, ainsi que tous nos modèles, sont habillés par Tati Mariage. Julia se présenta devant vous avec une robe Ivana. Le modèle Ivana qui est disponible des tailles 36 à 54. Elle est constituée en mouchoir de tulle et est d'une valeur de 449 euros.
Sur la route des jeunes mariés, nous sommes à la maison de la radio avec la sociologue Florence Maillochon. Alors on vient d'entendre au salon du mariage de Boulogne-sur-Mer, on vient d'entendre Rémi, 23 ans, sa compagne 22 ans. Ça paraît jeune. Quelle moyenne d'âge aujourd'hui des premiers mariages en France, Florence Maillochon?
Oui, ce couple est un couple très jeune pour se marier parce que la moyenne d'âge à l'heure actuelle au premier mariage, c'est de 31 ans pour les femmes et 33 ans pour les hommes. Donc ce couple est assez exceptionnel.
Et vous dites au premier mariage?
Au premier mariage, parce que si on compte aussi les deuxièmes mariages qui sont assez nombreux à l'heure actuelle, évidemment, ces moyennes sont encore plus élevées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a cessé d'augmenter aussi depuis les années 70. Alors dans les années 70, ce couple aurait été tout à fait moyen au
niveau
de l'âge. Mais en 40 ans, vous voyez, il y a eu presque 10 ans d'années, enfin... d'ancienneté dans l'âge au premier mariage.
Est-ce qu'on sait la part de mariage religieux?
Alors,
à peu près.
Là aussi, on est dans une baisse constante. Donc, on ne peut mesurer que les mariages catholiques en France parce qu'on a des registres, des statistiques qui permettent de les établir. Après, c'est plus difficile pour les autres religions, mais c'est de l'ordre de 40% de mariages catholiques parmi les mariages célébrés à l'heure actuelle.
Alors, ce qui nous permet de parler d'abord de la fonction du mariage, le sens du mariage. On s'est longtemps marié pour commencer une vie de couple. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire de se marier?
Alors, c'est vraiment une bonne question. C'est la question que je m'étais posée pour commencer cette recherche et que j'ai commencé il y a longtemps. J'ai commencé au début des années 2000, à un moment où le nombre de mariages était un petit peu en augmentation. En fait, c'était juste un feu de paille lié à l'effet années 2000. Mais bon, j'avais commencé à interroger les gens un peu de la même manière que vous l'avez fait dans ce salon du mariage. Et vous avez vu, les réponses qu'on obtient sont assez vagues finalement. La première réponse qui vient, c'est bien sûr parce qu'on s'aime. Et bon, ça, c'est quelque chose d'assez nouveau finalement. Le mariage d'amour, c'est une invention de, enfin, pas de ce siècle, mais du siècle précédent. Mais évidemment, on a envie d'en savoir un peu plus. À un moment, on n'est plus obligé de se marier pour vivre en couple et pour s'aimer surtout. Donc, c'est là que les questions me paraissaient assez vagues. Là, ce jeune homme dit « Vous me posez une colle ?» Et c'est vrai qu'on pose une colle très souvent quand on pose cette question abruptement aux personnes. Et du coup, ça m'a intriguée, évidemment. Alors les gens finissaient par dire « Ah, ben, c'est traditionnel » ou « Ça s'est fait naturellement », ce qui sont évidemment des sujets d'interrogation pour les sociologues. Donc, comme je n'avais pas de réponse vraiment satisfaisante, à part ce discours tout fait finalement, je me suis intéressée plutôt à la manière dont les gens se mariaient, en me disant, puisqu'ils ne savent pas donner de raison, à part l'amour, mais bon, il y a bien d'autres raisons, ce sont des choix personnels évidemment, mais qui dit choix personnel n'empêche pas que ce soit des choix sociaux. Et c'est ça qui compte pour nous sociologues, de voir finalement ce qui détermine nos choix, aussi individuels, personnels, singuliers soient-ils. Et donc, en voyant comment les cérémonies se passent, j'ai pu me rendre compte que finalement, le mariage n'était plus évidemment un moyen d'initier le couple, parce que toutes les personnes à l'heure actuelle se marient en ayant déjà cohabité. Mais par contre, le mariage était devenu un moyen d'expression de son couple.
Évidemment, on va développer le côté cérémonie. C'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé du mariage d'amour, mais on nous a pas parlé du mariage fiscal. Mais il y en a quand même des mariages fiscaux. On se marie pour bénéficier de réduction d'impôts.
Absolument. Mais finalement, parler en même temps d'amour et d'argent, c'est quelque chose d'extrêmement tabou en France. Donc, ce sont les couples qui avouent franchement faire un mariage d'amour, mais aussi un mariage financier, sont finalement assez rares. Alors, ça n'empêche pas que beaucoup le font, et en particulier en second mariage. C'est-à-dire que là, c'est là où on voit que le nombre de contrats de mariage est très élevé.
Florence Maillochon, on entend l'organisateur du Salon du mariage de Boulogne nous dire qu'à Boulogne-sur-Mer, les mariages augmentent depuis 4 ans. Vous nous disiez l'inverse. Est-ce qu'il y a des territoires en France où on se marie plus qu'ailleurs ?
Alors, le département Pas-de-Calais est un des départements français où on se marie le plus. C'est vraiment un des endroits où, et y compris, on se marie jeune. Donc finalement, c'est normal que vous ayez trouvé ce jeune couple, parce que vraiment, c'est sans doute un département encore relativement traditionnel, peut-être au niveau des valeurs, peut-être aussi au niveau de la religion, qui fait que ces jeunes gens préfèrent le mariage au Pax, par exemple, ou à la cohabitation, qui se fait quand même très souvent parmi les tranches d'âge les plus jeunes.
On va cheminer avec vous jusqu'à la cérémonie, Florence Maillochon. Il y a d'abord évidemment la demande en mariage. On a entendu Rémi, c'est lui qui a formulé la demande en mariage. Est-ce que les hommes ont toujours l'initiative de la demande?
Alors, oui, finalement, toujours, alors pas toujours évidemment, il y a toujours des exceptions, mais ce sont quand même les hommes qui font la demande en mariage ou qui sont amenés par leur future épouse à faire leur demande en mariage.
L'air de rien en fait.
L'air de rien, ou de façon un petit peu plus soutenue et par d'autres femmes. Tout dépend un petit peu du degré de connaissance de ce nouveau code de la part des hommes. Alors ce jeune homme est plutôt a l'air tout à fait au courant de ce qui se fait à l'heure actuelle dans les jeunes générations, mais c'est relativement nouveau en France cette phase de la demande en mariage telle que lui la conçoit, c'est-à-dire telle que tous les jeunes la conçoit à l'heure actuelle.
C'est-à-dire que lui, c'était une surprise.
Alors, c'est une surprise. Mais auparavant, pour les générations précédentes, la demande en mariage, c'était la demande de mariage aux parents. Là, à l'heure actuelle, quand on dit demande en mariage, on désigne le futur mari qui demande à sa future épouse de bien vouloir l'épouser. Mais évidemment, ils sont déjà au courant, l'un et l'autre, de leur projet. Et en général, la surprise ne porte que sur la forme de la demande. Le restaurant, la bague, etc. Mais très souvent, il y a peu de doutes sur l'issue de la surprise.
Et vous avez déjà entendu des histoires plus originales que d'autres, parce qu'il y a une sorte de concurrence de l'originalité dans la demande en mariage.
Ah oui, il y a une concurrence à l'heure actuelle. Ouais. Tout homme doit faire quelque chose d'original, de personnalisé, qui soit personnalisé en fonction des goûts de sa future épouse. Donc il y a vraiment un enjeu très important pour faire quelque chose de beau, éventuellement de savoureux si on passe dans un restaurant ou si on fait un petit dîner aux chandelles, et puis éventuellement offrir un bijou, c'est le top.
Someday, my prince will come.
Alors, la plaque d'immatriculation
de voiture qui est Someday, I'll find my love.
C'est
and I'll thrill him.
239 MC.
That moment will be when the prince of my dreams comes to me.
Donc il y a une voiture qui gêne, s'il vous plaît. Allez, monsieur le duc qui me rejoint. Virginie, vous pouvez revenir sur scène, s'il vous plaît. Allez, on va trouver 5 couples motivés pour gagner un madame de champagne et une montre de diesel.
C'est une fois le plus dur à faire, je crois.
Allez, c'est bon,
là, c'est bien, il faut profiter d'être sur le salon. Vous avez une bonne offre, donc.
C'est ça, ouais. La robe, c'est les choix un peu difficiles. Hein. Donc, on fait un petit tour encore.
Ouais.
Allez.
Ça sera tout à l'heure.
Merci.
Alors, le jour J, c'est quand?
Le 9 septembre 2017.
2017, vous avez déjà calé la date pour le 9 septembre 2017.
Ouais, bien sûr. Ben, on préfère anticiper de façon à ne pas courir à la dernière minute.
Et de... À l'avance, pour avoir vraiment ce qu'on veut.
Quand est-ce que vous vous êtes décidé?
On en parle déjà depuis un très long moment. Et là, l'année 2016, on va pouvoir engager les procédures de demande de devis et de prestations. Donc voilà. On s'est décidé sur un coup de tête, parce qu'elle voulait, se marier, un mariage de princesse, donc j'ai réfléchi à ce qu'on pouvait faire. On en vient tout au fur et à mesure.
Vous vouliez un mariage de princesse?
Bah ouais, je crois que c'est le rêve de toutes les petites filles, hein, donc ouais, la belle robe, enfin vraiment, moi ça me tient à cœur depuis que je suis toute petite, donc oui, je voulais mon petit mariage de princesse, donc ça fait un moment qu'on en parlait, et puis bah là on s'est dit, bon bah allez, on se lance, c'est pour ça qu'on fait ça tout doucement, parce que bah, il faut quand même organiser, hein, mine de rien, ça se fait pas en un mois, quoi, donc voilà.
Alors si Pauline veut un mariage de princesse, qu'est-ce que vous allez imaginer?
Alors, je sais pas du tout. Je lui lance quelques perches de temps en temps, savoir de ce qu'elle veut et de ce qu'elle rêve, exactement. Comme ça, moi, je peux essayer de trouver des idées et des prestataires qui font ce qu'elle demande. Tout dépend simplement l'allée et venue entre l'église et la mairie, ou c'est-à-dire soit une voiture ou une calèche. Je sais pas encore ce qu'elle veut vraiment, donc j'essaie de savoir exactement ce qu'elle voudrait. Et après, bon, bah, c'est pareil, au niveau décoration, au niveau robe, si elle veut un modèle haut de gamme, j'essaie de calculer et de travailler pour, bien évidemment. mais ça va aller, elle va avoir ce qu'elle voudra.
C'est vous qui allongez l'argent, a priori?
Non, pas tout à fait, mais je participe, hein, bien évidemment. Mais c'est le but du jeu, hein, c'est que tout le monde participe. Si je peux mettre un peu plus de mes bras pour lui offrir... Ce bonheur et son plaisir, il n'y a pas de souci.
Vous avez un budget?
Oui, on a un budget. Bon, on a fait un budget préalable avec les devis qu'on a déjà un peu réalisés. On a un budget qui s'élève pour certains. Ils vont nous dire que c'est élevé, mais pour nous, on trouve ça raisonnable. On va être à budget entre 13 et 16 000 euros. Voilà. Et ça nous permet de faire ce qu'on veut, mais sans non plus dépasser les limites.
C'est un vrai sacrifice pour vous? C'est un vrai investissement? Vous faites quoi dans la vie?
Moi, j'enchaîne les CDD. J'ai pas de boulot fixe. Donc, sacrifice, non. Parce que vu que ça nous tient vraiment à cœur, on peut pas dire qu'on se sacrifie pour se marier. On l'organise, on le prévoit justement depuis un certain temps. Donc, non. Enfin, moi, personnellement, pour moi, c'est pas un sacrifice du tout.
Pour moi non plus, c'est pas un sacrifice du tout. Hein. Je veux lui offrir ce qu'elle rêve. Et moi, de même, j'ai envie de m'unir avec ce mariage pour montrer mon amour vis-à-vis d'elle. Et donc, au niveau travail, moi, je suis paysagiste. Donc, j'ouvre mon entreprise dans 3 mois. Donc, ça ne va pas empêcher non plus nos projets. Donc, il n'y a pas... Voilà, c'est pas un sacrifice du tout. Au contraire, je suis prêt à tout faire pour en découdre, pour elle, voilà.
Qui a choisi de se marier à l'église ?
Nous deux. Ouais, c'est nous deux, c'est un choix commun, on va dire. Tous les deux sommes issus de familles chrétiennes, donc l'église pour nous c'est important au niveau du mariage, donc nous ferons toutes les étapes sur un vrai mariage, quoi, comme il faut. Voilà.
Et alors pourquoi le mariage ? Pourquoi s'unir par le mariage ? Pourquoi pas le Pax ? Pourquoi pas une autre forme d'union ? On dit que le mariage c'était nos parents qui se mariaient et puis que nous on est passé à autre chose.
Ça reste, je sais pas, pour moi, la façon la plus belle. Et après, oui, le Pax, mais ça n'a pas la même valeur pour nous. Le mariage, je trouve ça plus important. Et après, on revient toujours au rêve de petite fille. Il y a la robe, il y a tout. Enfin, tous les petits détails qui font que la cérémonie sera plus jolie, je pense, un mariage qu'un Pax. Il y a plus de chaleur dans un mariage.
Est-ce que vous sentiez une forme de pression de votre famille, par exemple ?
Oui et non, parce qu'on en a déjà parlé devant eux, ouvertement, comme quoi on avait l'envie de se marier. Donc, à chaque événement familial, alors vous vous mariez quand ? Donc, on leur disait, ça va arriver. Hein. Donc là, on leur a dit 2017, ils sont tous ravis pour nous. Hein. Ils ont hâte d'y être, surtout.
Vous avez quel âge ?
Alors moi, je vais sur ma 25e année. Un bon âge pour se marier, je trouve. Donc après, comme ça, les enfants pourront suivre correctement. Ça fera un bel enchaînement.
Et moi, je vais sur mes 24.
Et c'est comme ça que vous voyez les choses. D'abord un mariage, ensuite des enfants. Enfin, il faut faire les choses dans l'ordre.
Exactement. Ne pas brûler les étapes pour moi. Et pour Pauline, c'est pareil. On a la même vision. C'est-à-dire, on envisage le mariage. Après, les enfants qui viendront, mais voilà, il fallait un travail déjà avant tout. Hein. Donc voilà, un mariage, enfants. Voilà, dans la continuité, tout va se dérouler comme il faut. Hein.
Combien d'enfants ?
Moi,
deux. Deux, trois.
S'il y a déjà Discord, ça va pas.
Pas deux, hein, on va déjà sur deux, c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal.
Vous signez pour combien de temps alors, le mariage, a priori ?
Pour
toute la vie. Pour toute la vie, bien sûr. Voilà.
Et bonne chance.
Merci.
Merci beaucoup.
Ça va aller. Il n'y a pas de raison.
Bonne route alors.
Ouais,
voilà, hein. Tout à fait.
Merci à vous.
Merci.
Allez, au revoir.
Au revoir.
Allez, on peut applaudir. De gauche à droite, Victoria, Julia et Charlotte. Merci à tous, mesdames et messieurs, pour votre attention durant ce défilé. D'ici 15 minutes, nous allons jouer sur scène par couple pour tenter de vous faire gagner une magnifique parure de bijoux offerte par la bijouterie Virginie. En attendant, je vous souhaite une agréable visite de notre salon du mariage. Et rendez-vous dans 15 minutes sur scène.
Eh bien, on y sera, monsieur, au jeu des couples dans 15 minutes. Florence Maillochon, sacrée preuve d'amour qu'on a entendue de ce jeune homme à sa fiancée. Il s'investit beaucoup dans la préparation du mariage. Est-ce que l'homme s'investit toujours autant dans les préparatifs ?
Alors, les préparatifs sont devenus un temps très très long et de plus en plus long, où les époux ne s'investissent pas nécessairement de la même façon. Alors, même si cet époux semble beaucoup s'investir, il le dit plusieurs fois, il parle de leur projet et puis de ses efforts à lui pour faire ce qu'elle veut. Mmh. C'est quand même assez...
La calèche.
La calèche. Alors, moi, j'étais très frappée justement par cet exemple parce que c'est l'exemple où finalement, il dit vraiment qu'il s'occupe de quelque chose. C'est la calèche. Donc, c'est sur l'automobile finalement. Donc, c'est un des principes de la préparation au mariage. C'est que les hommes s'occupent en général de la voiture, éventuellement des alcools et puis de tout ce qui est animation musicale. Et puis, tout le reste est généralement de l'ordre des femmes. C'est une histoire de femme, donc de la mariée, éventuellement de sa mère, éventuellement aussi de la belle-mère.
Vous dites que la femme, c'est la couleur des dragées et la
toute
texture.
Toute la décoration, beaucoup.
On en est là.
Les habits, la robe, le costume qui est peu ou prou aussi un petit peu décidé par les mariés. Donc finalement, là, il y a souvent une division assez normée du travail dans les préparatifs du mariage. Et même si c'est un projet collectif où les deux participent au financement, il y a quand même un travail beaucoup plus avancé, réalisé par les femmes dans la durée.
Et même quand on demande aux parents un petit coup de main, c'est quoi ? C'est les mères font les gâteaux et les pères sont inspecteurs des travaux finis ?
En gros, si, si on caricature, c'est à peu près ça, où les pères insistent beaucoup aussi sur leur financement, en fait, comme ce mari d'ailleurs. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils donnent beaucoup, mais c'est surtout ils financent beaucoup, j'ai l'impression.
Est-ce qu'on demande encore beaucoup aux parents de participer ? Parce que dans la mesure où le mariage aujourd'hui est vraiment un choix, que plus rien n'oblige des jeunes à se marier, est-ce qu'ils demandent quand même à leurs parents une aide financière ou est-ce que leurs parents leur proposent systématiquement une aide financière ?
Alors c'est souvent un sujet délicat qu'il faut relier à la question des invités du mariage. Donc le propre du mariage à l'heure actuelle, c'est d'être un acte qui se veut conjugal et qui se veut organisé par les mariés. Tous les mariés le diront, ils veulent faire quelque chose de leur goût, de leur choix qui leur ressemble. Néanmoins, le mariage reste une fête familiale où il y a beaucoup d'invités issus des deux familles. Donc il faut quand même dépenser beaucoup d'argent pour réaliser une fête de mariage qui ressemble à un mariage, c'est-à-dire avec quand même un décor relativement important, des mets choisis, des vins.
Une robe blanche,
évidemment.
C'est la robe qui grève tout le budget, en fait. C'est énorme.
Pas
les
tout
prix
le budget, mais
énorme.
Qui impacte largement le budget, en effet.
Donc, c'est l'ordre de quoi ? De 8000 euros, une robe de mariage ?
Ah non, on en trouve. Non, ça, c'est une déformation des prix parisiens, peut-être.
D'accord.
Je pense que sur le salon de Boulogne-sur-Mer.
Ah bah là, on
ailleurs,
entendait.
Les... On a des. À Paris aussi, d'ailleurs, on a des robes beaucoup moins chères. Mais la robe de mariée reste un poste de défense où l'on ne compte pas, ou pas beaucoup. Et les personnes qui, par hasard, font des économies sur leur robe de mariée, en profitent pour se payer des accessoires coûteux ou dépenser encore un peu plus en coiffure, en esthéticienne, etc.
Donc vous disiez, le coût du mariage, c'est aussi le nombre de convives. En tout cas, vous parliez du choix des convives. C'est la grande affaire.
C'est la grande affaire qui pose des problèmes conjugaux et familiaux. C'est-à-dire que finalement, il me semble que les gens qui se marient et qui font des fêtes de mariage sont les gens qui peuvent réaliser et rassembler leur famille et leurs amis. En gros. Et il me semble que finalement, les gens qui ne passent pas par la case mariage sont aussi des gens qui ne peuvent pas rassembler leur famille parce qu'il y a des différences sociales, par exemple, ou culturelles trop importantes, ou parce qu'il y a des incompatibilités trop importantes, y compris au sein des familles de chacun des deux époux. Donc ceux qui se marient sont finalement ceux qui peuvent faire cette assemblée, qui est en général payée par au moins en partie par les époux. Tous les époux quasiment participent désormais au financement de leur mariage, ce qui se conçoit, puisque maintenant ils ont plus de 30 ans et la plupart travaillent, donc ils peuvent financer leur mariage, contrairement aux années 70 où les gens n'étaient pas forcément encore entrés dans la vie active. Mais néanmoins, les parents payent encore. Alors c'est toujours un petit peu négocié, parce que qui dit... financement dit aussi droit de regard, peut-être sur la manière dont sont établies les dépenses.
On veut bien qu'ils nous aident, mais on ne veut pas trop qu'ils mettent le nez dans.
Donc tout l'enjeu est là et les tensions se révèlent entre générations, avec parfois des inversions finalement dans les rapports de force entre générations. C'est-à-dire que finalement, dans beaucoup de situations, et en particulier dans les milieux favorisés, les enfants s'en tirent à très bon compte parce qu'ils arrivent quand même à mettre relativement à distance leurs parents et à dépenser l'argent de leurs parents comme bon leur semble. Dans les milieux plus populaires, c'est plus compliqué parce que très souvent, les parents sont désargentés et n'ont pas les moyens de financer quelque chose pour le mariage de leurs enfants.
Donc le mariage, lieu de reproduction des inégalités sociales.
Et même d'accumulation, je dirais, des inégalités sociales. Parce que si on prend simplement encore cet exemple caricatural entre milieux très favorisés et défavorisés, dans un cas, pour les époux, ils paieront quasiment rien parce que leurs familles vont dépenser beaucoup pour le mariage des enfants. En revanche, le couple va récupérer beaucoup de cadeaux, généralement sous forme d'argent. Donc finalement, ils s'en sortent assez gagnants. Inversement, dans des milieux très populaires où les parents ne peuvent absolument pas financer le mariage, les époux, qui sont souvent aussi désargentés, sont obligés de faire un emprunt et invitent des personnes qui sont de leur milieu et sont souvent désargentées, donc récupèrent assez peu de cadeaux et assez peu d'argent, donc sortent de leur mariage complètement exsangues avec des dettes et non pas un petit matelas confortable pour aller faire un safari quelque part.
Les parents des mariés, qu'est-ce qu'ils en pensent, eux qui aujourd'hui appartiennent à la première génération à avoir pris ses distances avec l'institution matrimoniale ?
Alors là aussi, il y a encore des différences sociales, mais on voit en même temps des parents qui sont très contents que leurs enfants se marient, et sans doute que là, dans l'exemple qu'on a eu, il y a une tradition familiale, les parents sont mariés, leurs enfants se marient, tout est normal. Ce qui est assez nouveau, en fait, dans l'histoire du mariage, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des couples qui se marient dont les parents n'étaient pas mariés ou sont mariés vraiment très vite fait, en basket, à la sortie des cours, ou alors des parents qui sont divorcés, remariés, redivorcés, re-remariés, etc. Donc, on a des situations très, très, très contrastées et des situations un petit peu d'inversion de rapports dans les générations, avec des situations où les parents se demandent comment ils ont pu rater à ce point leur éducation de 68 ans pour que leurs enfants se marient, enfin leurs filles en particulier, se marient en robe de princesse.
En robe de princesse ou alors avec des fioritures qui n'existaient sans doute pas à une certaine époque. Il y a des tendances, on le disait tout à l'heure, dans le mariage, qui sont de plus en plus personnalisées. Il faut que la cérémonie nous ressemble. Et alors, oui, on parlait de tendance. Il y a quoi, la cérémonie laïque, par exemple? Est-ce que ça existait, ça, la cérémonie laïque, il y a encore 10-15 ans?
Non, c'est comme la demande en mariage. C'est une nouveauté, sans doute, issue des États-Unis, et qui correspond aux besoins des couples de redonner sans doute du sens au mariage, sans nécessairement passer par la case mariage religieux, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui se marient de manière religieuse. Mais pour autant, le mariage civil, tel qu'il est organisé à la mairie, est un acte avant tout administratif. Donc réglé en 5 minutes, même si la plupart des élus maintenant essaient de mettre un petit peu les formes. Donc pour essayer d'améliorer cette situation, de plus en plus de couples se dirigent vers des cérémonies laïques où ils mettent en scène leur amour et la définition de leur amour dans un décor choisi par eux-mêmes.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais avoir l'honneur de vous faire une conférence sur le mariage. Ah, avant de commencer, et comme c'est l'habitude, je tiens à vous rappeler que toutes les opinions peuvent être émises. S'il y a dans la salle des spectateurs désireux d'exposer les leurs, même opposés aux miennes, je les prie de me faire signe.
Alors je me suis approchée de vous, Belinda et Grégory, parce que j'étais intriguée. Vous étiez en train de choisir une alliance avec deux grands-enfants à côté de vous.
Tout à fait. Ouais. Avec mon fils Clément, 12 ans, ma fille Anaïs, 9 ans. Et ouais, on était là pour choisir
une alliance.
Voilà.
Donc, c'est un mariage qui s'est fait tard. La vie a fait que on a eu nos enfants très jeunes. Donc, en fait, on a tout fait à l'envers, quoi. On a eu nos enfants, on a fait construire notre maison. Et voilà, maintenant, le fait d'avoir nos enfants qui grandissent et que la maman ne porte pas forcément le même nom que nos enfants. Et puis, au bout de 13-14 ans de vie commune, on s'est dit, il faut passer le cap et on s'est mariés, quoi. Enfin, on va se marier.
Vous aviez quel âge quand vous êtes rencontrés?
22 ans.
Voilà. Ouais.
Et qui a fait cette demande en mariage?
Ça s'est fait...
Ça fait déjà un moment qu'on en parle. Ouais. Et je dirais que tu as pris un peu les devants d'aller chercher les documents à la mairie, la réservation pour la salle. Donc, le fait qu'il ait anticipé tout ça, ça m'a motivée aussi. Ouais.
Donc, vous savez déjà où et quand alors?
Oui.
Donc, ce sera le 6 août de cette année.
Ça approche.
Et sur la commune de Tétéguem, c'est une salle de réception qui s'appelle Les Agapes. Très beau cadre avec un étang, une belle salle un peu rustique et deux chambres d'hôtes à proximité pour au cas où les gens sont un peu trop fatigués.
On va dire ça comme ça.
Voilà.
Vous prévoyez combien d'invités?
Une 50aine de personnes.
Ouais, c'est un petit comité les plus proches. Oui.
Et vos enfants participent alors?
Ah bah oui, hein. Ils vont participer. Hein.
Anaïs, plus. Ouais. Et plus de complicité avec la maman. Tous les soirs, ça parle de robe de mariée.
Et on a choisi, hein, ma chérie?
Oui.
Alors, elle sera comment? Normalement, je crois qu'il ne faut pas que le papa entende.
Ouais. Simple, avec les petits détails que je voulais, mais je ne pourrais malheureusement pas en dire plus.
Et alors pourquoi le mariage ? Alors vous dites que vous avez tout fait à l'envers, mais vous avez donc choisi de vous unir alors, à l'église d'ailleurs ou pas ?
Alors non, ce sera à la mairie et il y aura une cérémonie laïque qui est prévue après, mais pas d'église.
C'est pas trop son truc.
Il y a eu discorde ?
Non, du tout. Non, non, le principal c'est qu'ils soient là et qu'ils me disent oui.
Et alors pourquoi le mariage et pas le Pax par exemple ? Pourquoi cette union-là ?
Alors on en avait parlé du Pax et
mariage, c'est plus... c'est un symbole plus fort quand même.
Ouais, voilà, c'est plus solennel. Quoi.
Même si dans la société en général on entend que le mariage est en perdition, que c'est le Pax qui prend en plus le dessus. Après c'est une question de choix, c'est, le mariage c'est un symbole fort pour les enfants, pour madame.
Pour nous toujours.
Ouais. C'était surtout vous qui en parliez au départ ?
Ça fait 14 ans que je lui en parle, moi j'ai fini par arrêter et le fait d'arrêter c'est lui qui est revenu à la charge, donc c'est toujours le fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Ça a marché.
C'était la bonne stratégie
tout
alors.
Tout à fait, ouais.
Qu'est-ce que tu dis Clément ?
C'est mignon.
Mais alors ça va vraiment être un grand jour si vous l'attendez ouais. Depuis toutes ces années.
Pour nous et puis pour nos proches
ouais.
Qui nous bassinent. Alors c'est quand ? Alors c'est quand ? Et au fur et à mesure, on est en train d'annoncer les nouvelles et bah, ça pleure au téléphone ou ouais. Ça pleure...
Ça fait plaisir.
Ouais, voilà.
Bon, bah, il faut vous souhaiter bon vent alors.
Exactement.
Non, merci.
Ouais, merci.
Merci à vous.
Mariage d'amour, mariage d'argent. J'ai vu se marier toutes sortes de gens. Des gens de basse source et les grands de la terre. Des prétendus coiffeurs, des soi-disant notaires. Quand même je vivrai jusqu'à la fin des temps, je garderai toujours le souvenir constant du jour de pauvre noce où mon père et ma mère s'allèrent épouser devant monsieur le maire.
Juliette Gréco sur une chanson de Georges Brassens, Florence Maillochon, des mariages de toutes extractions. Ils doivent pas ressembler les uns aux autres. J'imagine qu'on se marie chez des experts comptables ou chez des ouvriers. Ou comment la fête diffère d'un milieu social à l'autre ?
Déjà, on ne se marie pas dans tous les milieux de la même façon. Et finalement, le mariage reste quand même attaché à des milieux relativement traditionnels et aussi à des milieux sociaux qui ont un intérêt financier à être mariés. Donc il y a plus d'indépendants, plus aussi de cadres, de professions intellectuelles et supérieures qui se marient que d'employés, par exemple, si on fait bref. Alors... Il faut savoir aussi qu'on ne se marie pas pour un homme quand on n'a pas de travail. Et là, c'est assez net. C'est-à-dire que tous les gens, à l'heure actuelle, ou presque tous les hommes qui passent la bague à leur épouse, ont un emploi. Donc, on voit bien que le mariage reste un acte, ou devient de plus en plus un acte distinctif, au sens où on peut vivre en couple et s'aimer dans tous les milieux, mais vraiment officialiser cette union est quelque chose qui marque socialement son milieu et son rang.
Alors, Belinda et Grégory ont deux enfants. Dans les années 50, il ne devait pas y en avoir beaucoup, des enfants qui assistaient au mariage de leurs parents.
Non. Par contre, maintenant, c'est beaucoup plus fréquent. Donc, ce jeune couple a tort de dire qu'on fait tout à l'envers. En fait, s'ils font tout à l'envers par rapport à un modèle traditionnel des années 60, c'est sûr. Mais à l'heure actuelle, il y a plus de la moitié des enfants qui naissent en dehors des liens du mariage. Donc, très logiquement, les gens se marient de plus en plus vieux. Et du coup, ils ont souvent des enfants présents le jour de leur mariage. Et on le voit aussi, c'est très net, dans la rédaction des faire-part. Vous en citiez au départ, au début de l'émission. Traditionnellement, là encore, dans les années 60, c'était les grands-parents et les parents qui annonçaient le mariage machin et machine. Mmh. À l'heure actuelle, on voit très souvent dans la rédaction des faire-part les enfants du couple qui annoncent le mariage de leurs parents et disparaissent complètement les parents du couple et encore plus les grands-parents.
Alors forcément, le mariage a suivi les évolutions de la société, peu ou prou. On parlait tout à l'heure des familles recomposées, ça complique un peu la donne. Les mariés aujourd'hui sont la première génération à avoir été confrontés massivement au divorce de leurs parents. Ça modifie l'orchestration des réjouissances, j'imagine.
Effectivement, ça complique considérablement la donne, en particulier dans l'organisation de la fête. Et en particulier, un détail très précis, c'est la réalisation des plans de table. Et il me semble d'ailleurs à ce propos que si on est de plus en plus venu à la réalisation d'un thème de mariage, comme le cinéma cité au départ, mais il y a aussi des tas de thèmes qui sont présents à l'heure actuelle, c'est aussi pour désigner des tables sans désigner des fonctions de table. Parce que la plupart des couples qui se marient à l'heure actuelle ont souvent des parents divorcés, qui sont remariés, parfois plusieurs fois. Et comment fait-on pour mettre tout ce petit monde ensemble, qui ne s'apprécient pas forcément, qui ne se sont pas vus parfois depuis très longtemps, sans faire de clash?
Vous en avez rencontré beaucoup, vous, des jeunes qui vous ont dit là, moi j'ai pu inviter ma mère, mais pas mon père, ou...
Alors le moment du mariage est un moment de révélation des tensions et des divisions familiales, c'est très très clair. Alors pour beaucoup de couples, le moment du mariage pourrait être est conçu comme un moment de réconciliation où ils souhaiteraient que leurs parents, par exemple divorcés, se voient enfin et s'apprécient de nouveau, au moins pour ce jour, en tout cas taisent leurs différends pour ce jour-là. En réalité, c'est pas toujours possible. Donc, parfois ça l'est, parfois ça ne l'est pas. Et dans ce cas-là, il faut trouver des manières de réaliser la coprésence, donc en organisant un plan de table tout à fait subtil.
Ceci dit, ça ne les décourage pas, les mésaventures de leurs parents, quand on sait qu'aujourd'hui, un mariage sur deux, à peu près, se termine par un divorce, ça modifie aussi le sens du mariage.
Oui, c'est sûr, ça modifie le sens du mariage, mais du point de vue individuel, tous les couples ont l'impression d'être différents des autres. Donc, chaque amour est différent, donc il me semble que chaque couple pense qu'il fera mieux que les couples de son entourage et en particulier beaucoup mieux que ses parents.
On n'a pas parlé du mariage homosexuel en tant que tel puisqu'il est devenu un mariage comme les autres et c'était ce à quoi aspiraient les couples gays et lesbiens. Est-ce que ça vous a néanmoins étonné, Florence Maillochon, lors des grandes manifestations pour le mariage dit pour tous? Est-ce que ça vous a étonné que les couples homosexuels aspirent à intégrer la norme petite bourgeoise de la respectabilité conjugale, pour reprendre les termes de certains militants qui se disaient consternés de ce qu'ils considéraient, eux, comme un retour en arrière?
Alors, dans la mesure où le mariage est conçu par la plupart des gens comme le symbole de l'amour et l'expression du couple, il est bien évident que les homosexuels ont envie, certains homosexuels en tout cas, ont envie d'avoir une reconnaissance de leur couple. Il me semble qu'il aurait été sans doute plus judicieux à ce moment-là de remettre à plat tout le système juridique autour du couple et de la famille et peut-être de proposer le mariage pour personne. Mais c'est un point de vue tout à fait individuel.
Ouais, Florence Maillochon, pour terminer, peut-être, on n'a pas dit que, et aujourd'hui, 2016, la hausse de l'espérance de vie est effective depuis quelques années déjà, depuis quelques décennies. Ça veut dire que la vie en couple dure plus longtemps. Est-ce que les jeunes couples le mesurent? Que finalement, ils vont devoir vivre ensemble jusqu'à peut-être 85, 90 ans?
Pour la plupart, ils sont une position un peu ambivalente par rapport à cette durée, parce que ils savent bien qu'il est difficile de maintenir un couple, que le nombre de divorces, est important. Donc ils ont en même temps un sens très critique vis-à-vis de l'institution et en même temps cet espoir, ce secret espoir que pour eux, ça va se passer différemment.
Forcément différemment, parce qu'on est forcément plus amoureux que les autres. Merci beaucoup Florence Maillochon, chargée de recherche au CNRS et chercheuse associée à l'INED. Votre livre « La passion du mariage et non l'amour » est à paraître en avril aux presses universitaires de France, au PUF. En attendant, nous mettons en ligne vos précédents travaux sur la page de Sur la route, sur le site de France Culture. Notre petite entreprise poursuit sa route. Yvon Croisier au volant, copilote Sophie Bobert. Nous étions ce soir à la Maison de la Radio avec à la technique Claude Niort. La semaine prochaine, nous serons sur les pistes de ski de la vallée de la Maurienne et nous tâcherons de comprendre à qui appartiennent les domaines skiables. Les modèles économiques diffèrent entre grandes familles, intérêts privés et maîtrise publique, communale, comme dans le village de Bonneval-sur-Arc, où nous serons entre autres. Il est bientôt 19h sur France Culture, l'heure de retrouver Marie-Hélène Fraissé pour Tout un monde.